insister particulièrement sur ce que j'aime appeler de temps en temps la révolution sociolinguistique, mais en tant qu'ancien Rouennais, je vais avoir un discours un peu paradoxal par rapport à tout ça, puisque je vais parler d'une révolution avec ses bons et ses peut-être mauvais côtés, et l'impact que ça a eu sur la place de la phonétique. Et puis en conclusion, je reviendrai sur une note d'optimisme, puisque depuis quand même une décennie maintenant, au début, on pensait que c'était juste un frémissement, quelques ébus, quelques effervescences qui se remettaient en route. Et puis maintenant qu'on est dans les années 2020, moi j'ai bon espoir de penser qu'il y a beaucoup plus que ça, une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc en introduction, je vais simplement, par rapport à la thématique du colloque, qui couvre une très longue période, insister sur finalement un passage un peu clé qui s'est déroulé au milieu des années 70. Alors, ce n'est pas évidemment en 1975 en particulier, mais disons qu'il y a cette période qui dure environ entre 1975 et 2010, avec cette place un peu timide. Et en essayant de trouver finalement des raisons à la fois sur le plan purement historique, c'est-à-dire en essayant de reconstituer l'histoire des idées dans le domaine de la didactique. Et alors, on va voir que ça va être largement transversal avec d'autres disciplines connexes. Et puis, moi, ça me permet, alors après, on pourra en discuter, ça fait partie des nombreux points, je pense, sur lesquels on pourra discuter. Mais moi, ce que je
Absolument.
propose finalement, c'est une sorte d'épistémologisation du domaine, ce que j'essaie de faire en cours, ce que j'ai fait plusieurs fois dans quelques publications, pour justement à changer de posture et se mettre vraiment en recul par rapport à tout ça, sachant que ce recul devient une nécessité absolue, dans la mesure où finalement, ce sont très probablement une sorte de postures idéologiques, pas que scientifiques d'ailleurs, mais en tout cas, il y a des idéologies, voire des doxas, qui peuvent expliquer tout ce qui s'est passé, et notamment la quasi-disparition, hein, de la phonétique à la fois dans les classes de FLE et en didactique du FLE. Donc, on va voir, je vais essayer de convoquer et de montrer que certaines idéologies, alors restons sur le plan scientifique, et puis qu'il y a aussi des modes. Ça, c'est des modes. On est des modes au niveau de la recherche, des modes. Il y a des écoles de pensée, des écoles théoriques qui sont plus mises en avant selon les périodes de l'histoire et qui sont tout à fait intéressants. Alors évidemment, si on est dans une démarche de quête de vérité, il est peu probable qu'une école théorique soit florissante pendant une décennie et devienne complètement absconde ou quitte à se faire oublier la décennie d'après pour réapparaître sous une autre forme une décennie encore plus tard. Dans l'absolu, il y a les choses qui sont pertinentes et les choses qui le sont moins. Donc, il y a vraiment ce phénomène aussi, le fait que on va plutôt s'intéresser à un moment donné à tel ou tel aspect ou plutôt à un autre. Je conclurai par la nécessité d'épistémologiser cette didactique de la phonétique, dans le sens où, disons que pour moi, personnellement, c'est ma méthode, hein, c'est la méthode que j'ai employée pour interroger cette réflexion et essayer de dégager comme ça des pistes d'analyse et de réflexion sur le sujet. Alors, si on part aujourd'hui, finalement, je vais partir d'une anecdote assez simple où mes étudiants de Master FLE, quand ils me choisissent comme professeur référent de stage, veulent tester, observer, analyser des séquences de phonétique dans des classes, dans des écoles de FLE en France ou à l'étranger. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Et à chaque fois, les premiers retours qu'ils me font, c'est oui, mais alors le problème, c'est que la phonétique, ils n'en font pas beaucoup. Et par rapport au nombre d'heures de stage ou à l'ambition de leur projet pédagogique, soit certains ont assez les coudées franches pour mener à bien un projet qu'ils auront construit du début à la fin, soit ils vont se retrouver plutôt spectateurs d'une phonétique noyée dans une didactique de l'oral qui finalement ne leur donne pas assez d'ingrédients pour constituer un corpus à l'analyse pour leur travail de recherche. Donc voilà, ça c'est une réalité que je constate depuis des années. Voilà, c'est pas nouveau, hein, bien sûr, mais ça existe, y compris dans les centres universitaires de FLE, et on pourra en parler aussi un peu plus tard. Donc la phonétique, finalement, on peut dire qu'elle est peu présente, voire absente, de la classe de FLE. On en avait discuté d'ailleurs avec Daniel Véronique il y a quelques temps, dans les formations de formateurs. La place de la didactique de la phonétique n'est pas très reluisante non plus dans les différents masters qui sont proposés en France. Finalement, quand on regarde bien, il peut y avoir quelques cours de phonétique française pour décrire le système phonético-phonologique du français. Il y a évidemment quelques formateurs, et j'en fais partie, qui vont faire des cours de professionnalisation à l'enseignement de la phonétique en classe de langue. Mais on est loin d'avoir une majorité de formations qui proposent ce type de cours. Et là encore, à mon avis, c'est un indicateur de cette difficulté. Alors évidemment, la difficulté, on en a parlé beaucoup, et je repense à la conférence inaugurale de Daniel Coste hier matin, sur aussi cette importance de l'écrit par rapport à l'oral dans l'histoire. Donc là, je ne vais pas refaire le laïus, mais il est évident que si on voit la phonétique dans l'oral et que l'oral est déjà en difficulté dans son articulation avec l'écrit dans l'enseignement-apprentissage des langues, et notamment, et on sait pourquoi historiquement, avec la langue française, eh bien, ça va compliquer un petit peu l'équation. Je prends l'exemple du TCF très souvent avec mes étudiants. On a quand même une certification linguistique dont la compétence de production orale est facultative, ce qui en dit très très long, encore une fois, sur le rapport entre ce qu'on pourrait, entre guillemets, atteindre comme compétence linguistique dans une langue étrangère et sur quoi véritablement on va se faire évaluer. Finalement, comme c'est un petit peu compliqué d'organiser des épreuves d'évaluation pour la production orale, laissons ça de côté et focalisons-nous sur les trois autres compétences pour attester du niveau général d'une langue. Donc, non seulement il n'y a plus de production au niveau discursif, lexical, syntaxique, communicatif et tous ces aspects, mais évidemment, encore plus difficile est d'évaluer la qualité de la prononciation des apprenants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la compétence de communication des années 70? En fait, Delattre, qui enseignait le français à des étudiants américains dans les années 50, a été l'un des premiers modernes, didacticiens modernes. Alors moi, je le vois comme ça, je n'ai pas une maîtrise absolue de toute cette histoire, mais disons que lui, il a vraiment essayé de réfléchir à la conception d'un manuel, d'une méthode, d'une démarche pédagogique pour faciliter, pour aider ses étudiants allophones à prononcer un français oral assez proche de la norme, on va dire ça comme ça, ou des normes. Donc voilà, c'est un phonéticien, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on rencontre un vrai phonéticien qui va se poser de vraies questions didactiques et qui finalement a ce double chapeau, cette double casquette, d'être à la fois un spécialiste de phonétique et un spécialiste de la didactique du FLE. Il y a aussi, dans les années post-Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est là-dessus qu'on commence la période de la problématique de ce colloque, un certain nombre de progrès technologiques, notamment dû aussi au progrès de l'armée, on l'a bien vu, ce qui va avoir des impacts assez intéressants au niveau phonologique et ce qui va déboucher de façon assez… alors, il n'y a pas eu de… Enfin, moi, je ne vois pas ça, je vois plutôt ça comme dans une continuité, bien entendu. Mais quand on parle de structure globale audiovisuelle, il y a quand même ce mot de structure, vous allez voir, qui est très important, sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est difficilement réfutable, selon lequel une langue est constituée d'un système phonologique, c'est-à-dire une organisation de ces toutes petites unités dépourvues de sens que disait Martinet, et que cette structure phonologique va devoir être travaillée, interrogée, va être un objet d'enseignement-apprentissage dans la classe de langue. Et c'est bien ça, je pense, qui va, à un moment donné, poser un certain nombre de problèmes. On a donc une vision, de toute façon, beaucoup plus large que le champ de la didactique des langues ou des sciences du langage, une vision qui va s'ancrer dans une pensée complètement à la mode, entre guillemets, dans les années 60-70, qu'on va appeler le structuralisme, qu'on va retrouver en littérature, que l'on va retrouver en anthropologie, qu'on va le retrouver, il ne faut pas oublier que Lévi-Strauss, par exemple, en entendu belle quand même à la fin des années 70 et dans les années 80, même si tout le monde, à son décès et à la fin de sa vie, le remettait sur une sorte de piédestal. Voilà, donc c'est un petit peu l'évolution générale dans laquelle va s'inscrire la didactique de la phonétique, la didactique du FLE et la didactique de la phonétique de façon plus précise. Alors, la fameuse révolution sociolinguistique et son impact, elle est intéressante, et là je vais revenir à la notion de crise. En fait, dans le titre de ma communication, je me suis amusé un petit peu avec un titre qu'on retrouve dans un article de Vygotsky à propos de la crise, la signification de la crise en psychologie. Alors, la crise chez Vygotsky, qu'on peut retrouver aussi chez Edgar Morin actuellement et depuis plusieurs années, qu'est-ce que c'est une crise sur un plan intellectuel? Ben, c'est une sorte de bifurcation, en fait. Il y a une crise quand, alors on pourrait faire un parallèle avec les ruptures épistémologiques chez Bachelard, par exemple. C'est-à-dire que on a une sorte de conflit, d'opposition théorique assez fort, hein, assez fort, qui va générer une sorte de chaos intellectuel. Et c'est ce qui va se passer dans les années 70. Puisqu'on va avoir une sorte d'opposition entre ce qui va relever des courants structuralistes, d'une part, et ce qui va relever des courants plutôt sociopragmatiques. Alors, hier, on a le mot de fonctionnaliste pragmatique aussi. Il y a le tout social. Enfin, voilà, on peut développer, il y a un certain nombre de synonymes. Mais disons que, voilà, il y a une bifurcation, on a complètement changé en quelques années, au milieu de ces années 70, par rapport à tout ça. Et évidemment, moi, je prends toujours la précaution de dire que ce changement était nécessaire et salutaire. C'est-à-dire qu'il était hors de question de rester dans une vision figée, structurale, à l'ancienne, de ce qu'était une langue, de ce qu'était l'apprentissage d'une langue et de ce qu'était l'enseignement d'une langue. Voilà. Mais par contre, vous savez très bien que quand on passe du plus au moins, et ben, généralement, quand il y a quelque chose qui est très radical, et ben, ce quelque chose de très radical va être contesté par quelque chose de tout aussi radical, parce que s'il n'était pas tout aussi radical, et ben, on ne pourrait pas vraiment le contester, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Alors, la compétence de communication de Himes, et puis ce que, par exemple, Daniel Coste en a fait un article dont tout le monde se souviendra en 1978, cette prise en compte de la dimension communicative va évidemment avoir un impact extrêmement important et surtout en rupture avec ce qui existait jusqu'à cette période dans le cadre de la didactique des langues et du FLE. Ne pas oublier non plus, comme particularité par rapport à la phonétique, le statut de la variation, parce que ça, c'est quelque chose, Leboeuf a quand même, sans le savoir, de son point de vue de sociolinguiste, mais qui finalement au départ était de la sociologie du langage, hein, finalement, bon, quelque part dans les années 60, sans le savoir, Leboeuf a jeté un énorme pavé dans la mare, et évidemment, tout le monde a commencé à se poser la question si prononcer de façon normée ou avec de la variation, c'était si grave, et puisqu'il y a de la variation partout, et puisque la norme, ce sont les variations. Que le mot norme a été mis au pluriel, que finalement tout le monde parle le français, mais personne ne parle de la même façon, que la parole est individuelle par rapport à la langue. Cette diversité-là, bon, dans les pratiques, dans les représentations, qu'il pouvait y avoir un décalage entre la représentation qu'on a de sa propre parole et de ses usages, et puis de la réalité de ce qui sort de nos bouches aussi. Bon. Alors, toutes ces études en sociolinguistique, ben, ont commencé à essaimer une sorte de gros doute sur l'intérêt, finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant d'enseigner la phonétique pour faire en sorte que nos apprenants parlent une sorte de français normé, certainement en décalage avec la réalité des pratiques langagières dans la société. Et là, c'était une sorte de révolution, hein, qui s'est passée au niveau, sur un plan intellectuel. Ce qui m'a conduit, il y a 2 ans, je crois, a publié un article un petit peu avec un titre un petit peu provocateur, mais en essayant d'expliquer que peut-être que la phonétique et la didactique C'était un mariage contre nature parce qu'on a eu énormément de mal. Il y a eu de l'âtre, ok. Mais dans les années 70, on se rend compte qu'il y a une sorte d'incompatibilité d'humeur et épistémologique entre les deux domaines. Et qu'on se dit, bon, bah, le très structuré, structural d'un côté avec le tout communicatif et social de l'autre, avoir du mal à coexister. Alors, en conclusion de cette communication, j'aimerais revenir sur la sortie de crise, c'est-à-dire sur l'évolution, disons, des années 80, 90, puis 2000-2010, puisque on est en fait sur 4 décennies, c'est quand même assez gros. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les phonéticiens, à la fin des années 70, ben, eux, les phonéticiens purs et durs, sont restés ou partis du côté de la linguistique formelle, la langue comme structure qui devait être étudiée aussi d'une certaine façon. Et puis les didacticiens, ben, eux, se sont focalisés sur autre chose et sur le côté vraiment socio-pragmatique. Alors évidemment, il y a des exceptions. Hein. Monique Calamand, par exemple, a été certainement la pionnière moderne pour cette question-là, de faire un véritable doctorat à la fois en phonétique et en didactique, en essayant justement d'articuler à une époque dans les années 80, c'était au début des années 80, c'était dans cette époque qui était peu propice à tout ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 80, ben, on a formé, on a embauché, la maîtrise FLE est arrivée en 1983-4. Et puis on a recruté beaucoup d'enseignants, mais on n'a pas recruté des spécialistes de phonétique pour faire des maîtrises FLE. Et finalement, il y a eu très peu. Alors, évidemment, il y en a eu. Elisabeth Gabretière en a fait partie, évidemment. Michel Billière, on va le voir après aussi, a assuré des choses. Et puis d'autres collègues, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que certains collègues sont partis à la retraite il y a très très peu de temps. En fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a embauché quelqu'un, si on l'embauche pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, eh bien, il faut au moins une génération d'enseignants-chercheurs pour pouvoir faire évoluer tout ça. Et donc, il y a eu ce figement ici, pour moi, qui s'est opéré. Alors, sous perfusion jusque dans les années 90, alors là, par contre, je vous ai mis quand même des publications significatives, et ce n'est pas exhaustif, bien entendu, sur toute cette question. Puis, dans les années 2000, on a eu ce que moi, j'aime bien appeler une sorte de frémissement, c'est-à-dire que là, il y a un retour à la publication, il y a un retour avec des articles, des colloques, des ouvrages importants, je pense à celui de Sylvain Detay. Jusque dans les années 2010, le bouquin de Loret aussi, hein, très pratique, mais qui donne aussi à réfléchir sur, finalement, on voit bien qu'il y a une sorte d'envie hein, de sortir de tout ça. Véronique Laurence et Elisabeth Gabretière ont ressorti un article dans l'excellent dossier du Français dans le monde sur la didactique de l'oral. Et puis maintenant, on a Grégory Miras qui vient de sortir un nouvel ouvrage chez Didier, et qui est jeune maître de conférence à Rouen, et qui va certainement participer à cette impulsion et à ce nouveau dynamisme. Et puis, ce qui est intéressant, je conclue là-dessus, c'est les avancées par rapport aux sciences connexes, parce que finalement, ce n'est pas la phonétique, la didactique de la phonétique du FLE qui s'est, elle, toute seule de l'intérieur, un peu sauvée, mais finalement, c'est ce qui s'est passé autour. Et là, je pense aux approches neurolinguistiques avec Claude Germain, que je salue au passage, les sciences cognitives et le connexionnisme, par exemple, même si moi, je ne suis pas un grand fan du connexionnisme, mais il faut reconnaître que voilà, ce sont des travaux de Lacks notamment, sont des travaux tout à fait intéressants. La philosophie et Morin, quand Morin développe la nécessité de l'interdisciplinarité, le fait de ne pas s'enfermer dans son domaine disciplinaire, mais de s'ouvrir et d'interagir et de faire de la véritable interdisciplinarité dans la recherche universitaire. Voilà les voies possibles, voilà les possibilités de faire évoluer une pensée collective dans tout ça. Et donc, on en arrive avec des publications, les publications récentes, où maintenant on arrive à multiplier les numéros de revues, les dossiers de revues scientifiques sur cette question-là. Et finalement, je conclurai simplement en disant que l'histoire et l'épistémologie d'un domaine comme la didactique de la phonétique, c'est vraiment au service de la compréhension. On voit bien qu'ici, en fait, il n'y a pas une quête de sens personnel. L'idée n'est pas de refaire ou d'inventer l'histoire, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement de faire ce travail de mise en lumière en essayant d'être honnête et de mettre tout à plat, hein, de jouer carte sur table et de se dire, bon ben voilà, moi je n'ai pas été formé dans une vision très constructiviste ou structuraliste. Ça ne m'empêche pas d'apprécier énormément les travaux de Piaget et certains travaux de Chomsky. Et à partir de là, on peut arriver à intellectuellement avoir cette capacité à comprendre et à écouter des collègues ou à apprécier des papiers et des travaux pour lesquels, a priori, on ne serait pas tout à fait d'accord, en fait. Voilà. Et c'est très bien de ne pas être tout à fait d'accord parce que ça permet les discussions. Et je suis désolé d'avoir dépassé de 2 minutes mon intervention, mais on va pouvoir maintenant, j'espère qu'on n'est pas tous d'accord, discuter de tous ces aspects-là. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jérémy.